C'est les inconvénients du direct.
Ah, c'est, on peut commencer, ça y est.
On t'attendait.
Il y en a là-bas. Non, là, c'est un seul. Il y en a là-bas, je viens.
On est prêts dans deux secondes, hein, des petits problèmes techniques, de son, mais on change de la club.
Il y a deux minutes.
C'est ça. Désolé.
Pas de problème, hein.
Ouais. C'est ça. Ça, c'est bon.
Non, c'est bon.
C'est bien.
C'est là?
Non, pardon, c'est derrière.
C'est derrière.
Ouais, là, ça y est. On va y arriver. Mazel tov.
Faut que tu laisses entrer.
C'est bon.
Faut que tu laisses entrer.
C'est bon.
Et normalement. Voilà. Yofi.
Attends une seconde. Joining.
On est bon.
Ah là, je t'entends. C'est bon.
C'est bon. Yofi. Tov. Eh bien, les amis, on peut se lancer. Alors d'abord, première information, la semaine prochaine, le cours sera sur Yom Yerushalayim, mais sera en Zoom. Pourquoi ? Parce que je serai à Charenton. Et donc, j'ai fait cours là-bas, donc je mettrai le YouTube, le Zoom. Hein ? Ou à Charenton ?
À Charenton.
C'est très loin de Jérusalem. Donc justement, c'est pour les réveiller à Jérusalem. Donc, le cours de ce soir, les amis.
Je me suis demandé si on t'entend bien.
Est-ce qu'on m'entend, Houston? On m'entend. Oui, non, oui.
Demandez aux gens. Vous
m'entendez? Bon, ça a l'air, de toute façon.
Ouais, ça a l'air.
Tom, donc le cours de ce soir va être en deux parties, tel que les organisateurs me l'ont suggéré. On va parler d'une première partie, bien sûr, les géos. La première partie pour terminer la sugya, parce qu'on a presque terminé la sugya de Sanhérive et je voulais qu'on la termine, et ensuite parler un petit peu de l'Agba Omer et tout ça. Ça y est ? Et donc, ça sera surtout la deuxième partie qui sera polémique. Top. Alors revenons sur la fin de notre sugya. Donc Sanhérive a perdu. C'est-à-dire, on a vu la semaine dernière la chute de l'armée de Sanhérive dans sa guerre contre Jérusalem, contre Chizkiyahou. Et la Gemara, donc dans le traité de Sanhedrin, Perek Chelek, nous dit, on est toujours Daf Tzadik Vav Amud Aleph, nous dit la chose suivante. Amar Rabbi Abaou. Il m'allait mikra katouv. Donc, on est après la défaite de Sanhérive, d'accord? Il m'allait mikra katouv, iefchar leomro. Et inversé, s'il n'était pas marqué, on n'aurait pas pu le dire. Dirtiv, dans le livre de Yishayahu, bayom aou. Oui? Quelqu'un qui veut parler? Dans le Zoom?
Non, j'ai mute, c'est bon.
Ok. Donc, nous dit dans le livre de Yishayahu, bayom aou. Yegalach Hashem betar asechira beevre naar bemelech Ashur et arosh vesar arglaim vegam et azakan tispe. Nous dit Yishayahu Hanavi, viendra un moment où Dieu va raser le roi de Ashur. Et attention, hein, il va le raser avec un rasoir loué et les poils des jambes vont y passer également, et les poils de la barbe également.
Rasé.
C'est-à-dire que d'abord la tête, les poils des jambes et Zakan. Et donc là-dessus, la Gemara, elle va dire, attends, c'est quoi ce verset? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce qu'il m'apprend? Ata kutcha berichu ve ad melei ke gavra saba. Donc là, on va nous expliquer dans Perek Helek ce que veut dire ce verset. Avant même qu'on rentre dans la Gemara, je ne sais pas quelles sont vos connaissances archéologiques en Assyrie, mais shalom, mais les poils, la barbe, la chevelure pour l'Empire assyrien, c'est très important. C'est-à-dire quand tu regardes les bas-reliefs, quand tu regardes les écrits qu'on a de cette époque-là, voilà, ils ont de la barbe. Ils ont tous des barbes à la Herzl. Et les cheveux longs derrière, machin. Donc c'est vraiment quelque chose qui met à fienne. Mais on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça représente. Donc nous dit la Haggadah dans Perek Helek. Ata kutcha berichu ve'ad melei ke gavra saba. Akadosh Baruch Hu est apparu à Sanhérib, puisqu'on a dit que Sanhérib fait partie des saints qui ont survécu à la Maka du Malach. On avait dit avec Sanhérib ses deux enfants et Nebuchadnezzar, Nebuzaradan, pour préparer la transition avec Babylone. Donc Dieu vient voir Sanhérib et il se dévoile à lui comme Gavra Saba, comme un vieil homme. Mazé vieil homme. Hein?
Le grand schtroumpf.
Le grand schtroumpf. Non, t'as raison. Achela, la question c'est pourquoi. Non, c'est... Pourquoi? Pourquoi il se dévoile à lui comme ça? Mazé Omer. On avait étudié, il y a moult, que le yachas de Sanhérib au divin, que le rapport qu'entretenait Sanhérib au divin, était un rapport de zilzoul. Ok, ça on l'avait vu dans Dav Tzadik Dalet. Il n'y croit pas à tout ça. Il s'en sert pour ses bienfaits et ses intérêts personnels au niveau politique. Mais lui, il n'y croit pas. Pardon ? Zilzoul, c'est mépris. Mépris. Mais là, il a perdu. Et c'est quelque chose qui revient comme étant un tavnit kevoa, c'est-à-dire comme étant quelque chose de récurrent, que lorsque des civilisations qui se sont éloignées de leurs origines, soi-disant pour atteindre le progrès, lorsque l'idéal qu'ils prenaient s'est effondré, on a vu toujours un retour aux sources. Le meilleur exemple, c'est la Russie. Alors, le plus récent. Après 40 ans de communisme, tout s'est effondré. Tout d'un coup, ils sont tous redevenus orthodoxes. Chrétiens orthodoxes, disons. Ah, tout d'un coup. Et là, pendant 40 ans, on était communiste, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de rien, machin. Tout d'un coup, toute la Russie redevient pravoslavique et tout va bien. C'est-à-dire qu'il y a cette tendance à vouloir revenir aux sources une fois que l'idéal que tu as proposé pour s'en détacher s'est effondré. Agave, c'est ce que nous, on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on a passé dans une transition. Le XXe siècle a été le siècle du modernisme. Et la fin du XXe siècle, début du XXIe, c'est ce qu'on a appelé le post-modernisme. Ça a atteint, le wokisme, ça y est, on ne pourra pas aller plus loin, ça veut dire... Donc, il n'y a déjà plus rien. C'est-à-dire, l'idéologie woke, c'est de dire qu'il n'y a pas d'idéologie. Que rien n'est vrai, que rien n'est vérité, à un moment donné, tu es obligé de passer au post-modernisme. Et ça va certainement être un véritable retour aux origines. Pas forcément une décadence, mais au niveau des valeurs, au niveau du lien avec le divin. Et donc, ici, on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile comme étant Gavra Saba, un vieux, pour lui rappeler qu'il revient aux origines. Vaz Makore, Amarle. כי אז לת לגבי מלכי מזרח ומערב, דאית יתינהו לבניהו לקטלינהו, מה אמרת להו? באוי, זה ביקודי. דום כאלה הרפונס. נא, שפיל מנה. שפיל מנה. כבר, ואתך הרמיה הייתה מטיפה רויה. כאן תשיבה הלבואר, לרוא דמזרח ומערב, וכתשולר דירה, que leurs fils sont morts. Comment tu vas leur dire? Parce que rappelez-vous, on a vu la semaine dernière, dans l'armée de Sanhérib, il y avait 45 000 princes, des vassaux, qui étaient les fils des rois de Mizrach ou Maharav. Il avait une coalition énorme, Sanhérib. Bon, maintenant, ils sont tous morts. Il va falloir que tu ailles annoncer ça à leurs parents. Comment tu vas leur dire? comment tu vas leur dire à toute cette élite du monde qui t'a fait confiance que tout est terminé?
Qui dit ça? C'est le vieux monsieur.
C'est Dieu. Dieu qui dit à Sainte-Rive. Et donc, réponse de Sainte-Rive. Amarlei, au gavra, beau pachada nam yativ. Amarlei, echina avid. Sainte-Rive a eu très très peur. Et elle a dit, effectivement, je sais pas quoi faire. Comment on va faire? Amarlei, zil veshane nafshech. Zil, viens, ve teshane et atzmecha. Change complètement. C'est quoi change complètement? Et en quoi ça va aider? Tu dis, ben voilà, en fait, tu es en train de dire qu'il va falloir le dire clairement à tout le monde. J'ai eu tort. C'était pas ça qu'il fallait faire. C'était pas ça qu'il fallait faire la guerre au monde entier. Voilà, il va falloir que tu le dises. Oui. Il va falloir que tu reconnaisses l'erreur d'avoir voulu conquérir le monde entier. Ah ouais, mais oh, zelo pashut. Comment on va faire? Iné. Bemaï Hashani. Et comment je vais changer? Amarle, donc Dieu lui répond, Zil aitini mispera veg zaïr ana. Hein? Ben voilà, il lui dit, Dieu lui dit, amène-moi des ciseaux et je vais te faire une petite coupe. Mazé.
On dit l'inversement. On dit qu'il lui dit justement, fuis tes responsabilités. Genre, je ne vais rien dire, tu t'enfuis quoi. Genre, tu.
Semblant rien.
Ouais, tu sembles rien. Tu disparais.
Ah, tu. Non mais.
Zil, tu es Chanel Tachira, genre.
Ah non, parce que.
Il disparaît, il va le déguiser, il va le truc, hop, il n'y a ni connu.
Non, mais tu vas voir dans la suite. Il ne peut pas échapper au regard des autres. Mais il dit, je change. Zeloani Yoter. C'est plus moi. Mais il dit, comment tu vas changer? On va te couper les cheveux. On va te couper les poils. Et ces poils. Alors on a dit dans le pasouk, tous les poils. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est à Sehar, à Zakan, à l'époque, dans l'Antiquité, mais encore aujourd'hui?
La majesté.
La majesté, Nachon, très vrai. À l'époque, les rois, c'était un vrai atout. Mais de manière plus, de manière plus générale, c'est la virilité, c'est surtout la force naturelle bestiale. Nos poils, c'est ce qui nous reste de quand on était des animaux. Sans vouloir rentrer dans une nouvelle polémique sur la théorie de l'évolution. Mais Bégadol...
Je coupe. Je commence à parler de passette.
T'as vu?
Je vais.
Non, mais on a déjà fait un cours sur l'évolution, non? On n'a jamais parlé de ça? On n'a jamais parlé de ça?
Ça
me
sympathique, là.
Il faudrait. Quoi? Pourquoi?
Effectivement, ça peut être très intéressant.
Oui, mais enfin, c'est pas shoot, quoi. C'est pas shoot que la théorie d'évolution, elle est bien. Elle est vraie, elle contredit pas du tout la Torah. C'est même pas shoot, quoi. Alors, Rav Kook, il en parle dans les Nevucha Ador, dans Rota Kodesh. Il dit, je comprends pas les gens qui ont peur de cette théorie-là. C'est Ktane Adea. Ces gens qui ont peu de connaissances. Ils ne connaissent rien. Alors, ils ont peur. Mais en vérité, c'est bidiouk. Ça nous décrit de manière scientifique ce que les Mekoubalim, ils ont toujours dit.
T'as un tonton qui a écrit un livre sur les animaux de la Torah.
Ouais, non, mais mon tonton, il parle pas de... Enfin, j'ai lu, il parle pas de la théorie d'évolution. Il dit juste notre rapport aux animaux, machin. C'est nachon. Moi, je te parle de nous. Non, mais Bégadol, nos poils, ils servent à rien, de manière générale. Mais... c'est un résidu de notre héritage de violence naturelle. Je dis violence parce que c'est pas moi, c'est la Mishnah. Il m'allait à Malchut, Mishnah dans Pirkei Avot, Ish et Re'eu, Chaim Balaou. S'il n'y a pas de cadre, comme disent les Romains, je ne me rappelle plus comment on dit en latin, l'homme est un loup pour son prochain. Homo leumo lupus machu kaze.
L'homme est un loup pour l'homme.
Ouais. Comment on dit exactement en latin?
Je sais plus te dire. J'ai fait du latin, mais.
C'est ça. Ben voilà. Bon, ben, en tout cas, vous avez compris. Vedi vidi vici.
Carthago de l'Andes.
Bon, mais qu'ils ont, vous avez compris. Quoi qu'il en soit, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va te couper la brutalité et la violence naturelle. En d'autres termes, t'arrêtes avec tes armes. T'arrêtes de faire la guerre. Ouais, mais attends, mais tu me demandes d'arrêter de faire la guerre. Et je vous ai dit, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une chevra qui prône la non-violence à outrance et qui prône aussi le non-poil à outrance. Il n'y a qu'à voir les pubs, il n'y a qu'à voir tout ce que tu veux. Je veux dire, c'est pas anodin tout ce qui est en train de se passer. Enfin, quand on parle de postmodernisme, il faut être conscient de ce qu'on est en train de voir. Quand on te vend qu'il faut que l'homme il soit totalement rasé, c'est pas stam une qualité esthétique et une mode. Ça veut dire quelque chose profondément. Bekitsour, donc on lui dit, il va falloir que tu coupes cette violence naturelle qui était la tienne, qui t'a fait aller conquérir le monde entier et qui t'a fait échouer. Alors il te dit deux secondes, mais Eicha Eti, et d'où est-ce que je vais les amener moi? Tu m'as dit de t'amener des ciseaux, où est-ce que je vais les amener? Où est-ce que je vais trouver? Tu es en train de me dire qu'il faut faire la paix, qu'il faut arrêter avec la guerre. Mais pour y arriver, tu me demandes d'amener des armes, maser des ciseaux. Ces deux épées qu'on a mis ensemble pour couper. C'est-à-dire que tu me demandes d'utiliser des armes pour plus faire la guerre, mais pour faire la paix. Et où est-ce que je vais trouver ça? Ah, non, mais maître, Kadosh Baruch Hu, il lui répond, Amarle, Aolau Beita Veiti. Va dans cette maison-là, et là-bas, tu pourras en trouver. Ça veut dire que tu ne pourras pas y arriver tout seul. Il faudra faire un Mossad Ben Leumi. Il faudra faire une institution internationale, une maison dans laquelle on va décider que là-bas, on s'occupe de faire la paix. Et s'il faut, on a des armes pour faire la paix. Ah tiens. Au cas où tu n'aurais pas suivi le fil de ma pensée, rappelle-toi qu'on avait dit que la guerre de Sanhériv contre Chizkiyahou aurait pu être Milchemet Gog Umagog. Donc, il est tout à fait normal que tout ce qu'on a réussi à mettre en place maintenant, puisqu'on est Behemot HaMashiach maintenant, c'est les choses qui auraient pu être mises en place déjà à l'époque. Donc évidemment, on est en train de te dire à Sanhériv, qui était le maître du monde, qui était le patron de la superpuissance de l'époque, dit ça n'a pas marché, tes visions impérialistes, maintenant, va falloir faire une maison où tous ensemble, on essaye de faire la paix.
C'est le Bet-Amigdash, l'ONU.
L'ONU doit arriver à Jérusalem. Badaï. Ki beiti beit tefila ikare lechol ha'amim. Alors, l'ONU ne devient pas, le Bet-Amigdash ne sera pas le siège de l'ONU. Mais il est barour que l'ONU, son siège central, doit passer de New York à Jérusalem.
C'est la préoccupation centrale.
Mais oui. D'abord oui. Donc ça gagnerait du temps. Ça. Ils ont commencé par l'ambassade, après ce sera l'ONU, mais le Ratachem. Donc.
Tu sais que Laurent ouais. Lévy, tu vois, Laurent Lévy, il a tout un truc sur le Bet-Amigdash. Ouais. Et un de ces trucs, enfin ce qu'il dit, c'est que le Bet-Amigdash, c'est un de ses.
De
ses fonctions, c'est amener la paix dans le monde.
Mais évidemment.
Bah oui.
Bah, c'est pas Laurent qui le dit, c'est la Torah qui le dit.
Parce qu'en fait, au Bet-Amigdash, il y avait des princes et des rois étrangers qui voulaient apporter des.
Mais évidemment.
Donc, a priori, c'est un lieu.
Mais,
qui...
Non,
mais...
c'est pour ça que j'ai. C'est pour ça que j'ai peut-être que l'ONU n'est pas.
Non, non.
Le papier du Bet-Amigdash, c'est ça, qu'on n'a pas besoin de l'ONU. A priori, c'était un.
Non, le Bet-Amigdash, c'est l'endroit où tu rencontres la Shrina. Maintenant, il faut une institution internationale de justice, de ce que tu veux. Donc, il y a, à côté du Bet-Amigdash, enfin, dans le Bet-Amigdash, il y a le Sanhédrin, ça c'est pour nous. Et à côté du Bet-Amigdash, on construira le bâtiment pour les nations du monde. C'est bien, Gabon. L'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire, tu viens puiser au Bet-Amigdash, comment après mettre en pratique dans l'ONU de Jérusalem. C'est bien, Gabon. Donc, ça veut dire qu'on va mettre en place cette institution. Alors là, il te dit Azil Ashkechinehu, Atu Malche Asharet, Veidmu Leik Gavre, Veaveka Tachane Kishta. Il est rentré là-bas, dans cette maison, et il a vu là-bas Malche Asharet, qui ressemblaient tous à des hommes. Donc, en fait, il a vu Sarea Umot. Il a vu les idéaux que représente chaque nation. C'est ça que je te disais tout à l'heure, quand je disais, peut-être qu'il s'enfuit. Non, il ne s'enfuit pas. Il est face à tous ces représentants des nations. Il leur dit, donnez-moi... Il les voit, enfin, il ne leur dit pas encore, pour l'instant, il les voit en train de faire quoi? En train de litron gariné tmarim. Ils sont en train de moudre des noyaux de date. Ok. C'est Manienne. Hein?
Encore un truc bizarre.
On a tous l'habitude de moudre des noyaux de date, c'est bien connu. Et donc, il leur dit, bon, donnez-moi des ciseaux. Et ils lui répondent, bah, je veux bien t'aider, mais il faut d'abord que tu quelques dates avec nous. Quelques noyaux. Et après, on t'aide. Ça veut dire, tu veux qu'il y ait l'aide des instances internationales, il faut que tu fasses partie de l'équipe. Il faut que tu rentres dans l'ONU, toi aussi. Sinon, ce n'est pas possible. Ok. Donc, je rentre et je commence à moudre des grains de date. Maz et grains de date. Qu'est-ce qu'on va faire avec les grains de date? Qu'est-ce qu'on fait avec les noyaux de date? On va planter des dattiers. Nous, il a fait meurtre. Seulement, le dattier, il a un problème. Le dattier, c'est le seul arbre où tu es obligé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des plantations de dattiers, mais c'est géométrique. C'est extrêmement bien aligné. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que le dattier, comme il ne peut pousser que vers le haut, c'est pas un arbre qui peut s'étendre sur les côtés. Il peut pousser que vers le haut. Donc on a besoin de son espace. Si on a un autre juste à côté, ils vont pas réussir à pousser ni l'un ni l'autre. Ou alors ils pousseront moins. En d'autres termes, oui, on va moudre des grains, des noyaux ensemble. C'est-à-dire qu'on va d'un côté s'empêcher de grandir trop, mais d'un autre côté, on va s'empêcher de se déconnecter l'un l'autre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une institution comme ça, où chacun s'occupe de sauver ses intérêts, et ses intérêts, c'est que ses intérêts ne soient pas trop développés non plus. Le Rav David HaKohen, il dit à propos de la tefila de Rosh Hashanah, il dit, quand on est dans la tefila, « Yassou kulam aguda achat la sot retsonecha b'levav shalem » dans la tefila de la Amida. Il dit, on prie, « Yale kevod malchutecha ve yassou kulam aguda achat » que le monde entier fasse une entité qui a pour but de la sot retsonecha. Il dit le Rav Nazir, ça c'est l'ONU. C'est fait. Il y a une assemblée dans le monde qui est là pour faire la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Chez Yeshalom. Le seul problème, c'est que Zélob et Levav Shalem. C'est-à-dire qu'ils ne font pas ça pour qu'il y ait la paix, ils font ça pour que eux, chacun, ils s'en sortent avec le moins de problèmes de leurs intérêts. Et donc après, dans la tefila, qu'est-ce qu'on dit? Et là, on dit, et après, la phrase d'après, c'est on dit, il faut faire passer tout ça à Jérusalem. Il faut tout ramener à Jérusalem. D'accord ? Bekitsour, donc ils leur disent, moi je veux bien, il faut que tu participes avec nous. Avar lahem, donc voilà, donnez-moi les mispareils, d'abord tu participes, ok. Atsheba, finalement il s'est mis avec eux, il a fait le coup de noyau, c'est-à-dire, Atsheba, yarad achosher. Quand finalement il est arrivé avec ses ciseaux devant Dieu, il faisait déjà nuit. Bon.
Il attendait encore.
Dieu, il attend. Dieu, il est sympa. Dieu, il est sympa. Il attend. Il est pépère. Il a le temps. Il a le temps.
Il a abandonné. Donc,
Non, pourquoi il a abandonné?
Il est parti dans la maison en question.
Bah, c'est Dieu qui lui a dit d'aller là-bas.
Justement,
c'est
ce que je me disais. Il est parti après.
Non, il est toujours là. Il n'y a pas de problème. Mais la nuit est arrivée.
Trop tard.
Mais la nuit. L'obscurité, il n'y a plus cette lumière.
On
ne
peut plus voir.
Ça, on peut plus voir. La barbarie est revenue. C'est bien beau d'avoir fait l'ONU, mais... Mais quand ils ont envie de faire la guerre, ils font la guerre. Asma Osim. Amarle, Dieu lui a dit, l'ech ta vie esh. Allumez la lumière. C'est ok, ils sont retombés dans leur démon. Yala, fais des lois. Fais des lois qui condamnent, envoie les casques bleus. Fais quelque chose. T'as de l'ikesh. Alar ve'eviesh. Il est parti, il lui a donné du feu. Torkede shaya nofeachba nitletalo esh biskano. Il est arrivé avec son feu, machin, et ça lui a brûlé la barbe. Ouah.
Tu viens de lui couper la barbe, c'est bien.
Ça
fait des économies.
Alar. Gaza zetrocho veetzkano amru zehu shekatu vegam et azakan tispe amar av papa zehu sheomrim anashav im itzlachta limshoch et agoy veutav beinav tala lo esh bizkano velo tisba mil tzchok alav. C'est-à-dire quoi? Il lui a dit d'amener du feu pour allumer la lumière, et finalement c'est ça qu'il s'est retourné contre lui. Oui, parce que tu as juste envie de te trouver un moyen pour t'en sortir. c'est pas idéal chez toi. Donc ça se retourne contre toi. Tu prônes des grands idéaux. Génial. Tu es le pays des droits de l'homme. Tu es le manig, le dirigeant du monde libre et éclairé et moderne. Et tu vas faire la guerre en Irak, pas parce qu'il y a des armes de destruction massive, mais parce que tu avais envie d'avoir des intérêts pétroliers. Et tout le monde l'a compris. Pareil pour ce qui était de la guerre au Vietnam. C'était pas forcément pour amener la paix dans le monde. C'est-à-dire, donc à un moment donné, tu prônes un grand machin, mais tout le monde a compris qu'en fait c'était parce que tu avais tes intérêts à toi. Tov, Azma Osim, ça marche pas. Et donc finalement tout s'est retourné contre moi. Azma Osim. Mais il dit comme ça. Azal, Ashker Dafa Mityufta Danach. Il est parti et il a trouvé un keresh de la Tevat Noire. Il est parti, il a trouvé un morceau de bois de l'arche de Noé. C'est pas mal. Est-ce que ça colle au niveau géographique ? Bah ouais. Ouais. Le mont Ararat, la Assyrie, c'est pas loin. Et Choliot Meod. Non, bon, on s'en fiche de savoir si ça colle ou pas. C'est une agada. Mais il se trouve qu'en plus, géographiquement, la Assyrie et Ararat, c'est pas loin. La Assyrie, c'est pas la Assyrie. C'est Achour, c'est la Turquie. Ça, c'est le sud de la Turquie. Zébessader. Bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire qu'il se cherche un truc, soit un keresh. C'est pour se survivre à la noyade. Je m'accroche à une bouée. Il a trouvé une bouée de la Tevat Noire. C'est-à-dire, je reviens avant même que toutes les nations elles se soient séparées, tout ça. Vazma. Amar. Zea el agadol sheetzil et Noach min amaboul. Voilà le Dieu qui a sauvé Noach du déluge. À qui il parle ?
Au bout de bois.
Au bout de bois. Toute ressemblance avec un cas actuel sur des gens qui se prosterneraient devant des bouts de bois. Fortuite. Évidemment, fortuite et involontaire, bien sûr. Mais attendez, je croyais qu'il n'y croyait pas. Nahon, il n'y croit pas, mais maintenant.
Ça s'arrange.
Ça s'arrange bien. C'est vrai ? Tov, Dov, nous, alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Amar. Donc maintenant qu'il a dit Amar, Imelech, Veatzliach. Donc maintenant, c'est bon, j'ai la force. Je me suis retrouvé une bonne truc. Je peux y aller. Aller voir qui ? Ben, tous les rois et leur expliquer que. Imelech Vatzliach, akriv et shne banai lefanecha. En remerciement, je tuerai mes deux enfants pour toi, ma nouvelle idéologie.
Pour le monsieur ?
Hein ?
Il parle au monsieur ?
Non, il parle au morceau de bois.
Il dit au
morceau
de bois pour toi, je vais tuer.
Ah, bah, ça y est. Une fois qu'il a fini le boulot, il est parti. Hein.
Okay. Donc là, il est rasé.
Là, il est rasé, il est bien, il est de près. De très près, parce qu'il y a le feu quand même qui est passé par là aussi.
Il a son bout de bois.
C'est-à-dire qu'il se rattache maintenant à une nouvelle idolâtrie. Et il dit, mes enfants, eux, ils n'ont pas fait le même tas à lire que moi. Donc ils sont encore dans l'ancien monde. Si ça marche, mon mahapar, je suis prêt à sacrifier mes enfants qui ne partagent pas mes idéaux. C'est pas grave, mes enfants. Ah ben non. Moi, je veux construire un idéal qui est peut-être même mieux fait s'il n'y a pas d'enfants. Moi, je trouve ça très intéressant de voir que ceux qui sont en train de plus ou moins gérer le destin de l'Europe, ils n'ont pas d'enfants. C'est méanienne. Non, c'est méanienne. En tout cas... Donc, il dit, si je réussis, je vais sacrifier mes deux enfants.
Ça passerait à grand-chose de le raser, il est toujours barbare, en fait.
T'as compris. C'est-à-dire que ça ne peut marcher... Non, ça n'aurait pu marcher que si c'était entier, sincère. Honnête, sincère. Ça l'est pas, ça l'est pas. Sauf que, Altidagi, à quel moment-là, Chamou Banav, Varagou. Ses enfants, ils ont entendu les plans de papa et l'ont tué. Voilà, l'empereur est mort, vive l'empereur. Zehu shekatuv vayehi hu mishtachave beit nisroch elohav ve'adram melech ve'shar etzer banav iku bacharev. Et voilà comment se termine l'histoire de Sanhérive. Avec quoi ? C'est quoi la fin de l'histoire ? C'est qu'ils ont essayé de faire un monde de paix après la guerre, mais ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que ceux qui l'ont fait, ils l'ont fait pour leurs intérêts et pas pour la paix.
Pas les Shem-Shamaïm.
Pas les Shem-Shamaïm. C'est-à-dire ? Pourquoi l'humanité a créé l'ASDN ? Bah, c'était après la Première Guerre mondiale, pour qu'il n'y ait plus la Première Guerre mondiale, mais pas parce qu'ils ont un problème de faire la guerre. C'est juste qu'ils veulent plus l'avoir chez eux. Faut pas se leurrer. La Première Guerre, l'ASDN, c'était qui comme pays ? C'était uniquement les pays qui décidaient à l'intérieur de l'Europe et des États-Unis. C'est tout. Après, il y a eu l'ONU. D'accord, mais au début, dans l'ONU, c'était qui ? C'était certainement pas les pays... ni en Asie, ni en Afrique, on peut continuer à leur faire la guerre et la colonie. Ça va. C'est-à-dire ? Donc, si tu veux, ça peut marcher que si c'est entier. Et puis après, la Gemara nous dit, Tov, tout ça, ça aurait pu être Milchemet Gog Umagog. Ça l'a pas été. Mais c'est quand la première fois qu'il y a eu cette histoire de Milchemet Gog Umagog qui aurait pu, mais qui n'a pas été. Vaychalek alem laila uve avada vayakem. Ce qui a marqué dans le livre de Bereshit avec Abraham, qui fait la guerre aux quatre rois babyloniens. Amar Rabbi Yochanan, otom malach shenizdamen lo le Avraham, laila shemo, shenemar ve'a laila amar ora gaver. C'est, maze vaychalek alehem laila, toi tu crois qu'il les a poursuivis toute la nuit? Non, il y a un malach qui s'appelle Laila, qui était avec Abraham à ce moment-là. Pourquoi? Parce que cette guerre qu'il a fait Abraham contre les quatre rois, c'était les prémices de ce qui deviendra beaucoup plus tard, Milchemet Gog Umagog. Et c'est la même Laila qui est venue le Chosher avec Sanhérib. Et Rabbi Yitzhak Nafra Amar, She'asa imo ma'ase Laila, She'ne'emar min ha-shamayim nilchamu ha-kochavim, mim sillotam nilchamu im sisra. Ce qu'on voit dans le livre de Shoftim, où ma'ase Laila, c'est le moment où on peut les surprendre. Ça n'a pas marché avec Abraham. C'est-à-dire que ça, c'est pas devenu Milchemet Gog Umagog, Vamashiach, Vesofa Historia. C'est pas devenu non plus à l'époque de Chizkiyahou. Donc, dit Reish Lakish, Amar Reish Lakish, Tava Nafra Midvar Nafra. Tovim divrei Rav Nafra, Midivrei Bar Nafra. C'est-à-dire, ce que dit Rabbi Yitzhak, c'est mieux que ce que dit Rabbi Yochanan. C'est pas qu'il y a un malar qui est venu, qui a géré tout, mais il leur a fait Maaseh Laila. C'est-à-dire que c'est un truc qui s'est fait, pas encore en lumière. C'est-à-dire que la victoire d'Abraham n'a pas amené l'éclat que la victoire de Gog Umagog doit amener. Ça n'a pas réussi. Pas encore. Et finalement, Vayirdof Addan, Amar Rabbi Yochanan, Kevan Sheba Oto Tzadik. Donc c'est qui Oto Tzadik ? C'est Abraham. Addan, Tashash Koho. Quand il est arrivé à Dan, il a chopé le corona. Lama. Il dit. Beaucoup plus tard, dans le Sefer Shoftim. À Dan, on va tomber dans la Avoda Zara. C'est les fameux Agalim de Yerovam ben Nevat, qui en a mis un à Bethel et à Dan. Et à partir de quand la chute de Sanhérib va commencer? Quand lui aussi il est arrivé à Dan. Donc, Abraham, ça aurait pu être Gog Magog, ça l'a pas été. Sanhérib, ça aurait pu être aussi Gog Magog, Zelo Alach. Donc aujourd'hui, c'est à nous de remplir cette mission-là et de ne pas faire les mêmes erreurs qu'à l'époque pour qu'enfin ce soit plus Maaseh Laila et là que ce soit Maaseh Or Gadol pour arriver à une Geoula Shlema. Amen, ve amen. Vous inquiétez pas, après Achour, on a vu que Sanhérib est mort, mais vous vous rappelez qu'il y a deux autres mecs qui sont en vie, c'est Nebuchadnezzar et Nebuzaradan, c'est Babel qui est en train d'arriver sur le fond de l'image, et ça, ce qu'on verra la prochaine fois, qu'est-ce que ça veut dire Babel et Khurban Amikdash, ve akol.
Donc ça veut dire qu'il faut qu'on amène la paix sur le monde, quoi. C'est-à-dire que c'est notre...
Ben, Vadaï. Et si c'est